Imaginons que je mette ce tableau. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit à l'intérieur du tableau? Ilyes.
Une centaine. Douze dizaines, quatre unités et...
18. 18 quoi?
Dixième.
À votre avis, il va falloir faire quoi? À votre avis, à partir de ce tableau, il va falloir faire quoi? Ryan.
Il va falloir faire des échanges.
D'accord. Pourquoi tu dis qu'il va falloir faire des échanges?
Parce qu'il y a trop de dixièmes.
Par exemple, il y a trop de dixièmes.
Et il y a trop de dixièmes.
Et par exemple, peut-être qu'il y a trop de dizaines. Et il va falloir faire quoi? Mais il va falloir me trouver quoi? Il va falloir faire des échanges, ok.
Il va falloir faire des échanges et trouver un nombre exact.
D'accord. Et trouver
le nombre.
D'accord. Est-ce que jusque-là, tout le monde comprend la consigne? En attendant, tout le monde, vous allez devoir, avec votre nombre décimal, par exemple, si, imaginons que je trouve 112,3, il va falloir, au dos, trouver le maximum de décomposition possible. Alors, c'est parti. Quelqu'un a eu des difficultés et s'est trompé à un moment donné et maintenant veut nous expliquer pourquoi il s'était trompé.
Voilà. Nous, en fait, on avait oublié d'entourer les 10. À chaque fois, il nous manquait un jeton, du coup, ça nous faisait un peu de retard.
Alors, t'oublier d'entourer les...
Les paquets de 10.
D'accord. Quelqu'un va venir placer son nombre décimal. Et après, on va essayer, parce que j'ai corrigé vos exercices et tout le monde n'a pas compris comment placer les nombres dans l'ordre croissant. D'accord? Quelqu'un va venir poser son étiquette. Donc le premier au hasard, au milieu du tableau. Puis après, on va essayer de les classer par ordre croissant. D'accord? Et après, si vraiment vous êtes fort, on va essayer de rajouter des nombres. Ça, c'est vraiment si vous êtes fort. Pourquoi tu l'as placé là? Alors déjà, lis-nous ton nombre.
90, je suis au-dessus de lui.
Pourquoi tu l'as placé là?
Parce qu'il est plus petit que ça.
Bah pourquoi? Là, j'ai un 8 et là, j'ai un 2.
Mais parce qu'on regarde le nombre entier.
On regarde la partie entière. Là, la partie entière, elle est de combien?
90.
Et là, elle est de combien?
208.
Donc, est-ce qu'on regarde ce qu'il y a derrière la virgule? Pour l'instant, on s'en fiche, d'accord? Parce que là, je mange 90 gâteaux en entier et là, j'en mange 208 en entier. Donc, pour l'instant, je m'en fiche. Regardez bien où Bilal pose son étiquette. Oui. Attention, il va devoir donner une bonne justification.
90, c'est le même nombre que 90, alors on regarde la partie décimale. 8, c'est plus gros que 4, alors 4, c'est derrière 90,8. Et 90, c'est plus grand que 73, alors on le met ici.
Est-ce que tu serais, David, venir me le placer?
Oui.
Vas-y, viens.
Non, ici. Ici, parce que là, c'est 123,40, et là, 123,60, et que 47, c'est au milieu des deux.
Qui est d'accord avec David? Qui n'est pas d'accord? Alors, Faïsa, pourquoi tu n'es pas d'accord, toi?
Parce que dans 123,6, c'est 6 dixièmes, et dans 123,47 centièmes, c'est 47 centièmes. C'est plus grand.
Elle a le droit de s'exprimer, hein? Donc, toi, tu le mettrais là. Parce que tu te dis qu'il y a 4,6, 47. C'est ça. Alors, il va falloir être très convaincant pour convaincre Faïsa. Parce que je te le dis, c'est David.
Il a raison.
Bilal, viens.
C'est parce que 123,4, on peut le remplacer par 123,40.
Alors, stop. Ça, tu me dis que c'est la même chose que ça.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il y a 0 centième ici un dixième, ça fait...
Moi, j'ai vu ça comme affiche quand je suis rentrée dans la classe. Est-ce que c'est vrai qu'un dixième, c'est la même chose que 10 centièmes?
Oui.
Donc, 2 dixièmes, c'est la même chose que 20 centièmes. Donc, 3 dixièmes, c'est la même chose que... Donc, 4 dixièmes, c'est la même chose que... Donc, je peux très bien écrire en mathématiques 123,4 dixièmes ou 123,40 centièmes. D'accord? Donc, jusque-là, Bilal, je te suis. Donc, Faïsa, est-ce que tu es d'accord pour dire que si j'ai 123,47 centièmes, je suis au milieu de 123,40 et 123,60?
Comme avoir 40, 47 et 60.
Est-ce que vous allez jouer au jeu du nombre cible?
Oui.
Regardez, j'ai vu ça aussi. Vous deviez trouver un nombre cible. Oui. Eh bien, entre 0,4 et 0,5, il y a par exemple 0,44. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Est-ce que quelqu'un a des questions?
Non.
Ryan.
Moi, tout à l'heure, j'avais pas bien compris parce que quand on mettait 123,47, pourquoi on ne mettait pas... Je me demandais pourquoi on ne mettait pas tout au fond, parce que les dixièmes et les centièmes, c'est quelque chose qui ne ressemble pas vraiment.
Ryan, la règle numéro 1 qu'on a vue, c'est de commencer par regarder la partie entière. Là, tu vois bien que tu manges 200 gâteaux en entier. Et là, tu en manges 123. Donc, tu préfères manger 200 gâteaux ou 123? Bon, si Ryan, je ne mets pas la virgule et je mets que le nombre entier, je suis d'accord avec toi que petit, on a appris, et jusqu'à maintenant, que celui qui avait le plus de chiffres, c'était le plus grand. Là, tu as des nombres décimaux. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord regarder les parties entières. Regarde, 2,00789,4374. D'accord ? Beaucoup de chiffres. Hein. 6. Qui est le plus grand ? Chut, Ryan. Pourquoi c'est 6 ?
Parce que 6 est plus grand que 2.
Voilà, la partie entière, 6, c'est plus grand que 2. Attention, dernier essai. Hein. Tout l'enjeu est que ce qu'on nous demande au collège, qu'ils ont du mal à passer d'une fraction décimale à un nombre décimal, qu'ils ont du mal à dire que 6 dixièmes, c'est 60 centièmes. Tout l'enjeu du CM1, CM2, ça va être qu'ils soient à l'aise avec plein d'écritures différentes pour qu'ils arrivent à l'aise, quoi. Après, les classer dans l'ordre, j'avais corrigé un exercice où, en fait, c'était pas bien parce qu'ils regardaient le chiffre 1,8, 3,4. Ils m'avaient placé dans le mauvais ordre, donc je voulais revenir là-dessus. Et en fait, la mise en commun, ils ont plutôt dit ce que j'avais dit. Mais voilà, mais alors, c'est vrai que leur exercice était pas terrible, donc je voulais revenir là-dessus. Bah déjà, je suis le livre de Singapour. Donc, il y a des fois des phases très, très formelles où là, c'est moi qui vais parler pendant une demi-heure, qui vais leur montrer les choses, qui vais modéliser, qui vais... Voilà, où ils vont juste répondre à mes questions, mais c'est moi qui vais leur dire, voilà, ça se passe comme ça, je fais ci, je fais ça. Et puis, il y a des séances d'exercices purs où, dans ces cas-là, ils sont tout seuls. Et je vais prendre juste ceux qui sont en difficulté. Et il y a pas mal de séances comme aujourd'hui où ils vont essayer de réfléchir à deux et où je vais dégager quelque chose à la fin. La séance comme aujourd'hui, par exemple, je l'ai réfléchi parce que je me suis dit comment leur faire retrier des nombres dans l'ordre. Mais comment revenir un peu sur les décompositions ? Mais sans pour autant leur donner un exercice à chacun. Voilà, donc des petits jeux comme ça qu'il y a dans le manuel Singapour. Hein, j'ai dit, je vais faire celui-là. Suivre la méthode tout en essayant de l'adapter en fonction de ce qui se passe. Qu'ils réfléchissent davantage à ce qu'on peut leur demander de faire. J'aime bien qu'ils trouvent la consigne. D'ailleurs, dans les fichiers PEMF qu'on fait parfois, quand ils avancent à leur rythme, et dans les dossiers PEMF, il n'y a pas de consigne. Il faut regarder l'exemple. Et après, en fonction de l'exemple qu'on a regardé, faire ce qu'on doit faire. Je leur apprends l'autonomie. C'est-à-dire que si tu y arrives, tu travailles tout seul. Et si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Mais par contre... En contrepartie, il faut que les autres soient autonomes. Et quand on travaille par deux, alors c'est tout un... Par trois, c'est tout un travail au début de l'année surtout. On s'en fiche de qui tient le stylo. On s'en fiche parce qu'au début de l'année, ils se battent tous pour avoir le stylo en main. On s'en fiche de qui a le stylo. On s'en fiche de qui s'est trompé. Mais on essaye de réfléchir à deux. Si on travaille par deux, voilà. Alors ils sont placés de telle sorte dans la classe que généralement, un peut aider l'autre. Facilement. Normalement, si tu veux, deux enfants en difficulté ne peuvent pas travailler ensemble. Sauf si moi, je l'ai décidé. Si des fois, je décide que, par exemple, il va y avoir un groupe de trois qui n'ont pas compris, mais que moi, pendant une demi-heure, je vais rester qu'avec eux. Et donc, dans tous les autres groupes, je ne saurai pas ce qui se passe. Et je le saurai seulement à la mise en commun. Ils n'ont pas tous le même niveau déjà. Donc par exemple, quand Aïcha va me faire une addition, je vais être contente, mais elle ne va pas savoir faire une multiplication, mais je me dis qu'elle a encore plein d'échelons à gravir. Et puis y en a certains qui vont avoir plus de mal en géométrie ou... Voilà, mais en tout cas, dans ce qu'ils font, j'essaie qu'ils progressent chacun d'un cran.
Parce qu'au début, moi, je voulais tout niveler. C'est-à-dire qu'ils fassent tous la même chose et que je les tire tous vers un même objectif. Quand je me suis retrouvée devant 27 enfants, et ben, il y en a 5 qui aimaient les maths et 22 qui galéraient. Et j'arrivais pas à trouver le truc pour leur faire aimer les maths. Là, je dis pas qu'ils sont en extase devant les maths, mais je dis qu'au moins, ils n'ont pas peur d'en faire.